Allez, c'est parti pour 100% rugby, votre émission rugby autour de nos deux clubs de top 14 et de Pro D2, à savoir bien évidemment l'Aviron Bayonnais et le Biarritz Olympique. Les ciels et blancs qui se préparent à affronter Toulon ce dimanche soir à Noëtta, un match toujours particulier car si les ciels et blancs sont sur une série de 28 succès consécutifs à Douger, cette série ne compte pas des matchs à Saint-Sébastien puisque ce stade ne réussit pas toujours, c'est vrai. En tout cas aujourd'hui Bayonne est 9e du championnat, 3 points seulement du top 6, et ce match à Noëtta, vous y serez d'ailleurs pour être peut-être dimanche soir grâce à France Bleu Pays Basque, puisque je vais vous offrir encore 2 places pour cette rencontre dans la prochaine heure. Et puis le BO, lui, se prépare pour un déplacement au stade de la Méditerranée chez le 2e, Béziers, les Biterrois à égalité de points avec Vannes, le leader. Un déplacement à haut risque, en tout cas pour les Basques qui sont 12e de la Pro D2 et qui retrouvent la compétition après un week-end de repos.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Et cette émission 100% rugby, vous pouvez la réécouter en boucle sur francebleu.fr, sur l'application ici ou encore sur l'application Radio France. Nos consultants du jour, nos spécialistes, Yann Blanchard. Salut Yann.
Bonsoir.
Et Roger Aguerre est là également. Salut. Bonsoir. Roger. On va se pencher bien évidemment sur ce match à Noëtta ce week-end, le rendez-vous dimanche soir. Yann, d'ailleurs, on en est où, tiens, dans la billetterie? Il reste encore quelques places?
Ouais, c'est ça, il reste, je pense, là, à l'heure où on parle, entre 2000 et 3000 places, peut-être même un peu moins. Donc on se rapproche tranquillement du guichet fermé, et c'est à noter pour un match un dimanche soir où les supporters toulonnais, du fait que ce soit un dimanche, que ce soit Pâques, etc., ne se déplacent pas beaucoup. Ils seront entre 300 et 500, là où les Palois l'année dernière étaient au moins 5000. Donc on voit que malgré certaines personnes qui disent que ça se vend moins bien, s'il y avait un club qui aurait été plus près ou un match un samedi, le stade serait déjà plein. Donc c'est à louer, parce que c'est beau de voir ce stade se remplir, et même pour un dimanche soir à 21h.
Parce que peut-être même une autre heure aurait peut-être peut-être plus de succès auprès des Toulonnais, peut-être aussi.
Ouais, des Toulonnais, des familles, c'est compliqué quand on a un enfant en bas âge. 21h, ça va te faire entrer à 1h, 1h30 à Bayonne. Il y a beaucoup de... Ben Roger est là pour en témoigner. Il y a aussi beaucoup de matchs amateurs dimanche, et c'est des matchs où tu joues la qualif, où tu joues le maintien.
C'est une journée de repli.
Oui, et mais Fédéral 2, Fédéral 1, voilà. Ça joue, et National 2.
Et après, il y a beaucoup de clubs dans le coin qui sont adaptés et qui jouent le samedi.
Bon, par exemple, si on prend un exemple, Asparandaï n'a pas pu jouer le samedi. Donc il y a toutes ces niches là qui vont pas venir. Il y a aussi beaucoup de tournois de gosses. Je sais notamment que l'Aviron Bayonnais, les U10 et les U12 sont du côté de Pau, donc ça leur fait trop juste pour venir. Donc on voit que tout ça rajouté, que l'affluence va être magnifique quand même pour ce match à Noëtta.
Est-ce qu'on sait si d'ailleurs quelques amis du Sud viendront quand même voir le match?
Ouais, il y en a, je pense, entre 300 et 500. Il y a des clubs de supporters qui sont amis avec nos clubs de supporters. Il y a les FADA notamment qui font un repas avec la Peña Bayona des samedis. Il y a les Fils de Besogne qui sont amis avec le Boc chez nous, qui feront une cidrerie le dimanche. Mais bon, c'est infime. Ouais. Entre 200 et 500.
Entre 200 et 500, ouais.
Bah, il y en a 200 qui ont pris par la billetterie du Stade Toulonnais, c'est-à-dire leurs places qui sont réservées. Après, on sait jamais si d'autres ont pris par la billetterie normale. Donc, c'est pour ça que je dis entre 200 et 500. Mais au final, ça fait pas beaucoup par rapport aux Palois la saison dernière. Donc, l'un dans l'autre, ça va être une aussi jolie fête que la saison dernière, avec quelques améliorations du côté de l'Aviron, notamment pour les transports, notamment avec le village aussi. Ça va être une vraie fête cette année autour du stade, puisqu'il y aura le village sur le parvis de d'Anoeta, je vais me faire gronder, de la Real Arena, pardon, avec l'excellent concert d'une personne qu'on aime bien ici, enfin moi non, mais vous oui, puisqu'il y a le groupe Botacantu de Benoît Caballero qui sera en concert sous le chapiteau de ce village Churiordine. Et après le match, pour ceux qui restent à Sensé, de 23h30, puisqu'il n'y a pas le droit pendant une demi-heure de servir de l'alcool en Espagne, de 23h30 à 1h, il y aura Mix Live, c'est un DJ, Maxime Leroux. Là aussi, choix a été fait de prendre un Bayonnais pour faire ambiancer les gens et pour que tout le monde profite de cette fête-là. Donc voilà, ça avance, c'est mieux que la saison dernière, et c'est moins bien que la saison prochaine.
On fera mieux la saison prochaine encore. À quelle heure commencent d'ailleurs les festivités au village? Ah, alors la voix suave, c'est celle de Stéphane Garcia qui nous a rejoint. Salut Stéphane. Parce que Stéphane, il arrive, bonjour. Alors lui.
J'ai écouté toute la semaine et toute la saison. Yann Blanchard se croit à la maison, donc moi je fais comme lui. Je dis pas bonjour.
Bonjour Stéphane.
sur la table. Bonjour à tous.
Exigez un verre d'eau.
Voilà. Quel plaisir en tout cas de vous avoir avec nous, de t'avoir avec nous, mon cher Stéphane Garcia. Dis-nous, qu'est-ce que tu as à nous raconter aujourd'hui ?
Non, mais simplement, il y avait la conférence de presse d'avant-match et c'est vrai qu'on sent des baïonnés qui pour beaucoup sont revanchards parce qu'ils n'ont pas oublié ce qui s'était passé l'année dernière, même si c'est un autre contexte, même si c'est un autre adversaire. Ça reste Toulon avec Charles Livon, ça reste une belle affiche, ça reste aussi une possibilité d'aller chercher une place dans le top 6, alors que l'année dernière, finalement, cette équipe de l'Aviron Bayonne était dans le top 6 avant d'aller jouer à Noëta avant fin mars. Là, il s'avère que jusqu'à présent, peut-être mis à part sur les deux trois premières journées de championnat, on n'a pas connu le top 6 du côté de l'Aviron Bayonne et que c'est ce match-là qui peut être charnière et te permettre d'arriver au top 6 avant les six dernières journées de championnat. Donc voilà pourquoi ce match est important aussi. Et ça, les joueurs en ont conscience. On le dit, les joueurs et même le staff estiment que cette année, l'effectif est de qualité, des joueurs qui ont connu des grands rendez-vous et que du coup, ça peut permettre de bien vivre, de mieux vivre l'événement avec le décorum, l'enceinte, les 40 000 ou presque supporters qui vont donner de la voix ou non. En tout cas, les joueurs et le staff en ont conscience et c'est le message, c'est que si vous voulez que ça ressemble pas à un stade à Noëta comme l'année dernière, c'est-à-dire morne où ça faisait pas beaucoup de bruit, si vous voulez qu'il y ait des supporters qui poussent derrière vous, ce sera à vous, joueurs, de vous impliquer, de faire en sorte que sur les 10-20 premières minutes, on ressente quelque chose et que vous allumiez la flamme.
Surtout que le match, il est bien situé puisque derrière... c'est Coupe d'Europe, on sait que maintenant c'est plus une priorité. Même si l'Aviron est qualifié, il va jouer en... Comment ?
Ça l'a jamais été.
On va pas revenir sur les objectifs, les podcasts.
Mais tu peux, écoutez, monsieur Philippe Taïeb a dit la semaine dernière, ici même à Stantène jeudi dernier, gagner une place. Donc ça
mais par rapport à la suite du championnat, c'est sûr que ce match il est idéalement situé pour savoir quels vont être les objectifs de l'Aviron d'ici la fin de saison. Et effectivement, c'était un match clé. En plus, avec l'enchaînement et cette victoire quelque part miraculeuse contre La Rochelle, mais c'est une victoire. Et derrière, en enchaînant, tu te positionnes effectivement pour jouer les. Et là, tu peux plus te cacher à cette image. Tu joues les 6.
Avec 3 déplacements, 3 réceptions, alors que jusqu'à présent, notamment dans la première partie de championnat, tu n'avais plus, t'avais fait plus de déplacements que tu n'avais reçu à Jean Daugé ou à Noëta.
Est-ce que t'as pas cette pression quelque part aussi de ce match à Noëta, que t'as eu la défaite l'année dernière déjà face à Pau? Là, t'es sur une série à la maison où t'as une grosse série. Si tu perds encore une fois à Noëta, les supporters vont dire c'est bon, on arrête, on n'y va plus.
Non, moi je pense. Je sais pas.
Oui, je pense que les supporters le diront. Franchement, si après on va se heurter à la réalité économique,
exactement.
C'est que pour l'Aviron Bayonnais, avec 13 500 places actuellement à Jean Daugé et avec tes ambitions d'aller chercher un budget à 30 millions d'ici quelques temps, t'es obligé de localiser au moins un match dans l'année à Noëta. Ou alors tu fais des places plus chères, ou alors t'as grandi un stade et tu fais un stade ici à Bayonne de 25 000, mais bon, au bout d'un moment, il y a la réalité qui te rattrape.
Yann, tu veux réagir ?
Non, mais d'un point de vue supporter, et moi d'un point de vue com... Il est vrai que l'année dernière, j'étais presque soulagé à la fin de la saison que ce soit pas cette défaite qui nous empêche d'être dans le top 6. Parce que il y avait 6 points, du coup, au final. Donc, une victoire ce jour-là, même si ça change la physionomie, la saison, blablabla. Bon, c'est pas ça qui nous a fait enlever le top 6. Mais oui, il est clair et net que si tu veux ancrer cette date dans le futur, c'est-à-dire y aller au moins une fois par an, oui, il va falloir en gagner quand même au bout d'un moment. Donc ce match est important aussi pour ça, mais ça a pas à transparaître sur les joueurs. Au contraire, j'écoutais lundi l'émission de l'excellent Stéphane Garcia où Eric Balader disait non.
Mathis Perchaud.
Oui, Mathis Perchaud, où les disponible en podcast. Tu veux que je continue ouais. où Eric Balader disait mais en fait donnez-moi le nom d'un joueur qui a pas envie de jouer dans un stade de 40 000 personnes et je suis totalement d'accord avec ça. Et pour ce qui est de l'ambiance, il y aura un gros changement aussi au niveau des placements des abonnés qui peut faire la différence, c'est-à-dire que la tribune Rocard et la tribune Nord, qui sont deux tribunes qui font beaucoup de bruit, vont être situées dans le même embut cette année. Et dans la continuité de cet embut-là, il y aura la tribune Keolis, qui est l'autre tribune qui fait beaucoup de bruit. Donc ça veut dire que tu peux avoir un foyer assez large de gens habitués à mettre l'ambiance à Jean Daugé et ça peut suffire pour que le stade s'embrase suivant, en effet, ce qui se passe sur le terrain.
Il s'embrasera dimanche, en tout cas.
Ce stade l'année dernière.
Voilà, à Noëta. Oui. Match donc entre Bayonne et Toulon, la 20e journée de Top 14 qu'on suivra en direct en intégralité sur France Bleu Pays Basque. Hein, le coup d'envoi à 21h, l'avant-match dès 20h30 avec Stéphane Garcia avec nous en studio. Tu vas d'ailleurs nous filer dans quelques instants la compo probable, bien sûr, parce qu'elle n'est pas encore disponible, cette composition pour le match de dimanche, mais on a peut-être quelques indiscrétions ou pas. On verra ça en tout cas avec toi tout à l'heure. Stéphane Garcia, Yann Blanchard avec nous également ce soir, tout comme Roger Aguerre.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Et on commence à préparer le match à Anoeta avec la réception de Toulon pour la 20e journée de Top 14. Stéphane Garcia est avec nous dans le studio, Yann Blanchard également et Roger Aguerre. Stéphane, on va suivre avec toi ce match bien sûr sur France Bleu Pays Basque ce dimanche, comme tous les matchs de l'aviron bayonnais. Et tu vas peut-être nous donner quelques clés, peut-être on a quelques indiscrétions ou pas, savoir si on a une composition probable ou non d'ailleurs pour ce match face à Toulon.
Ouais, on va dire qu'on est globalement dans la continuité, mais en même temps on est dans les matchs qui comptent là, donc ça serait étonnant de voir autre chose. Deux changements probablement pour la compo pour le 15 de départ, avec en première ligne Mathis Perchaud, Facundo Bosch et Tevita Tatafu. Un changement en deuxième ligne puisque Lucas Paolos remplacera Constantine Mikotadze, il sera associé à Arthur Ituria. Troisième ligne inchangée pour le coup avec les titulaires que sont Pierre Huguet, Baptiste Egui et en numéro 8 Isser Kassim. La charnière avec un changement puisque Maxime Macheneau, qui était titulaire ces dernières semaines, et bien là sera sur le banc des remplaçants, remplacé par Guillaume Ouette et associé à Camille Lopez. Et puis derrière, la ligne de trois quarts est inchangée a priori, avec Rémi Bagé, Federico Mori, Arnaud Herbin Artegaray, Matteo Bocareras et Cher Tibérien. Voilà pour le 15 de départ. Sur le banc des remplaçants, Vincent Uccelli ou Thomas Hacquier, ça je vous cache pas que c'est la seule incertitude. Après Cormenier, Marchois, Bordeaux, Macheneau, Spring, Martoc et Scholz pour les 23 bayonnais a priori.
A priori, Yann.
Ah oui, j'en sais rien du tout.
J'essaye, on sait jamais.
Il a dit quatre fois la compo probable. Donc oui, et après, c'est sur les forces en présence, forcément, ça va être ça. En deuxième ligne, côté Mikotadze a fait un très bon match la semaine dernière, mais la rentrée de Paolo est aussi très intéressante.
Et le staff apprécie énormément Lucas Paolo, oui. Parce que c'est un garçon, entre guillemets, plutôt discret, qui applique très proprement le système, et on aime ça.
Eh bien... Ouais, je pense qu'en fait, il a les caractéristiques de pénible que peut avoir côté Mikotadze, mais je pense que dans le jeu ballon en main, il fait plus mal que côté parce qu'il est plus lourd.
Et en plus, il était blessé, Paolo.
Et c'est ça.
Voilà, son absence des dernières semaines était due à une blessure.
C'est pour ça. Et après, sur le poste de neuf, bon, les deux neufs, ça sera eux, c'est sûr. Alors, est-ce que Guillaume, qui a repris un peu de rythme la semaine dernière, sera titu, ou est-ce que Max, qui a beaucoup enchaîné quand même ces dernières semaines, mais qui est aussi très bon.
On va pas se mentir, Guillaume Rouet était en conférence de presse. À partir du moment où, selon les règlements LNR, en conférence de presse, t'envoies les titulaires, on va dire que Guillaume Rouet sera titulaire. Sauf si on nous fait une Guinovès à l'aviron bayonnais. Mais bon, ça c'était plus sous Yannick Bruy qu'on le faisait.
On est un club qui...
Par rapport à Grégory Pata. Et un embrasse Yannick.
Non comment. On est un club qui respecte les règlements LNR, au contraire d'autres. Donc si tu me dis que Guillaume est passé en conf, j'étais pas au courant. Donc c'est un effet qui sera sans doute titulaire. Bon, Max démérite pas du tout ces dernières semaines, ça c'est sûr. Après, je répète, il a beaucoup enchaîné, et surtout en temps de jeu par match. C'est vrai qu'il a été très peu suppléé par Guéla, qui rentrait vraiment pour les toutes fins de match à chaque fois. Et puis bon, Guillaume, ben c'est peut-être ce supplément d'âme que t'as besoin aussi pour jouer à Anoeta, parce que forcément pour les Rouettes, les Perchaud, les Herbin Artegaray, les Baptiste Egui, oui, jouer là-bas, c'est pas pareil que pour un autre. Donc il y a aussi ce supplément d'âme qui peut faire la différence.
Oui, et puis il y a aussi peut-être une adaptation stratégique, parce que autant tu joues contre La Rochelle et répondre à leur puissance, et il faut avoir des joueurs comme Maxime Macheneau qui vont être dans ce rôle un peu de 9e avant, porter le ballon, être présent autour des rucks et répondre à l'intensité physique. Autant là, quand on voit la prestation de Toulon, même si la semaine dernière Montpellier passe complètement à côté, il y a quand même un rapport de vitesse et de déplacement qui est quand même différent, et d'où peut-être aussi cette adaptation stratégique des coachs de l'aviron.
Et puis Guillaume Rouet, maintenant il connaît très bien Anoeta, puisqu'il a quand même été étudié le terrain l'année dernière, mais aussi cette année avec Robin Lenormand et Mikael Oyarzabal, on s'en souvient, avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG.
Et il avait déjà joué en 2013 d'ailleurs contre Toulon, il me semble bien qu'il a joué celui-là, il a joué deux, donc il a dû jouer 2013 et 2014, donc oui forcément, et c'est là où je me permets de te reprendre, c'est que Anoeta a plus souvent souri que fait pleurer Bayonne, puisque c'est la 6e délocalisation. Je te vois, Roger, je te parle des réceptions. Je te vois arriver avec tes grands sabots. Il y a eu 5 victoires pour une seule défaite.
On préfère les pistes d'athlétisme autour, c'est pour ça.
Oui, sans doute. Mais il va falloir conjurer le sort cette saison, parce qu'il n'y a vraiment pas de raison. Et c'est dur parce que, voilà, pour l'année dernière, on résume tout à Anoeta. Bon, voilà, on n'en sait rien ce qui serait passé à Jean Daugé, même si le match de La Rochelle nous montre qu'il y a quand même une bonne étoile au-dessus de ce stade depuis 2 ans. et demi.
On va se pencher un peu aussi sur les forces en présence dans un instant sur l'équipe qui va venir nous rendre visite à Noeta, à savoir le RCT avec quelques jeunes qui ont marqué notamment, qui marquent les esprits actuellement du côté de Toulon.
Garcia.
Quoi ?
Au lieu de balancer la compo probable de l'Aviron, bon, qui est plutôt pas mal. T'as la compo de Toulon là, qu'on sache un peu ou pas?
Moi je suis journaliste à France Bleu Pays Basque.
Voilà,
mais déjà, France Bleu France Bleu Provence, France Bleu Azur.
Mais appelle les collègues là.
Le problème c'est qu'on a du mal à joindre le club du RCT. On vous expliquera ça dans un instant. Ils répondent pas.
Visiblement, un jour, il y a un joueur qui veut parler.
Visiblement, ça manque de réseau du côté du RCT. Mais ça, on va vous expliquer ça dans un instant. Vous ne bougez pas. Stéphane Garcia de France Bleu Pays Basque est avec nous. Yann Blanchard également et Roger Aguerre pour ce 100% rugby jusqu'à 19h.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
C'est bon. Si vous êtes passé dans les bouchons, la bonne nouvelle, c'est que c'est 100% rugby actuellement avec Stéphane Garcia, avec Yann Blanchard et avec Roger Aguerre. Et là, attention, il y a un gros débat par rapport au jingle. Alors vas-y, Stéphane Garcia, comment ça fait?
C'est
D'accord, Yann. D'accord, bon,
c'est
très bien.
Ce que tu faisais.
Oui, mais moi je faisais une petite tierce.
Bon, messieurs, si ça ne vous dérange pas, on va se pencher un peu sur l'équipe qu'on affronte ce week-end. Le RCT, 5e du tableau, qui a roulé sur Montpellier, atomisé 54-7. C'est vrai que Toulon à la maison, c'est costaud. Ils avaient battu Perpignan 44-22 sur le match précédent à Mayol, mais à l'extérieur, c'est plus compliqué pour les Toulonnais. Il y a eu le mois dernier une défaite au Racing 20-6, une défaite à Pau 17-9. Dehors, Toulon marque pas beaucoup finalement, alors qu'à la maison, c'est un festival offensif. Visiblement, on se demande un petit peu quel RCT peut-être on va affronter finalement ce dimanche.
Je vais aller dans la provoque et dans l'extrême. Cela dépendra du niveau de Baptiste Serin. Il a changé totalement le visage de son équipe quand il est rentré le week-end dernier après la blessure de White. C'est un joueur qui est capable de justement, par certes sa technique, mais par son investissement, de bien faire jouer son équipe, de faire bouger son équipe. Il est capable d'arbitrer un match. Voilà, il est capable de tout faire.
Ils seront deux alors.
Avec qui?
Avec Ami Lopez.
Oui, Guillaume Rouette.
Non, mais
ça fait partie du haut niveau.
Ça fait partie du très haut niveau.
Il y aura quand même Pierre Brousseau au milieu.
Quand je dis ça de Baptiste Serin, je dis pas ça du tout négativement. Hein. Il te faut un mec comme ça qui est capable de parler avec l'arbitre, d'aller essayer du moins d'influencer, même si ça marche pas toujours. Notamment quand tu joues à Pau. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est cette clé-là parce que c'est rare des joueurs. Il y a Dupont à Toulouse qui est capable de changer le visage à lui tout seul de son équipe. On l'a vu la saison dernière, des fois quand il rentrait, ça changeait tout. Et pour moi, Serein est de cette trempe-là. Et ça va être peut-être la clé quand on voit sa rentrée la semaine dernière. Bon, par contre, bon courage justement à Monsieur Brousset, parce qu'il va y avoir un duel de pénible en neuf. Mais attention, la roue est sereine.
Hier avec une tête.
Je vais dans l'extrême.
Oui, bien sûr. Mais après, sur le match de la semaine dernière, et notamment sur le début de match où Montpellier essaie de tenir le ballon et d'enchaîner.
Ils sont pas loin de marquer.
Voilà. Mais un joueur encore qu'on a retrouvé avec toutes ses qualités, c'est quand même Gabin Villière qui a gratté énormément de ballons au sol. Mais dans son rôle, il est pénible.
Il joue troisième ligne.
Il a empêché beaucoup d'actions de continuer. Et moi, j'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait, c'est le remplacement de Fainga Nuku au centre.
Déjà le dire correctement, sans bégayer.
Donc je trouve que c'est un positionnement, n'est-ce pas,
ça fait
très intéressant. Donc voilà, et moi je trouve que cette équipe de Toulon la semaine dernière, c'est sûr qu'il y a toutes les qualités de Baptiste Serein, mais on l'annonçait en crise et tout ça, mentalement j'ai trouvé forte dans sa capacité à résister à l'entame de Montpellier, et après à les faire craquer, à se déplacer, moi j'ai trouvé leur match quand même très intéressant.
Et le match de Montpellier?
Ouais, mais ça s'est délité, parce que Toulon a été impressionnant sur la réponse.
Les carreaux score est quand même assez conséquent parce qu'il y a 3 voire 4 essais en 10 minutes sur l'affaire.
Mais ce que je veux te dire, c'est que
ça n'arrive pas qu'ils ont fait une grosse perf.
Mais ce que je veux te dire, c'est que sur tout ce qui était annoncé, sur la crise et ainsi de suite, l'entame de Montpellier où pendant 10 minutes, ils tiennent quand même le ballon, ils sont très près de la ligne, t'as pas senti une équipe qui mentalement était prête à lâcher et qui s'est soudée sur quelque chose. Donc, moi, c'est pour ça que je te dis que c'était intéressant.
Stéphane.
Non mais quand même, quand on regarde l'équipe, c'est
non,
juste
mais
quand même
monstrueux. J'ai jamais dit que c'était pas monstrueux.
Non, mais c'était finalement étonnant de pas les voir enclencher une dynamique cette saison. Mine de rien, la semaine dernière sur les joueurs de qualité, bon, il y a Charles Livon, mais il y a Abadi qui est de semaine en semaine mieux sur le terrain, c'est assez impressionnant. Corneille Dupraz qui reste une valeur sûre. Enfin, ils ont même pas qui est quand même monstrueux avec des noms qui font pas forcément entre guillemets rêver. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pas qui écrase son adversaire s'il le peut. Et derrière, quand t'as les flèches qu'ils ont, Jaminé, on en parle peu par exemple.
Non.
Mais je suis désolé de dire, mais Jaminé.
Mais alors, même sur un match comme ça, tu l'as trouvé bon? Dans sa gestion, pas de souci.
Ouais, voilà, mais sauf que la gestion, c'est important.
Faut aimer ce rugby-là.
Oui, mais
moi, je continuerai de détester.
Je sais, mais aujourd'hui.
Je suis fier de détester.
Et typiquement, là, Toulon arrive, t'es à l'extérieur, à Noëtta. Tu sais que l'occupation, la gestion, le triage des ballons.
Il va sortir un match XXL là-dessus, il n'y a pas de souci.
Non, mais c'est ça, c'est quand on analyse les équipes sur le match à l'extérieur.
5 à 7 et que t'es en train de chercher un 50-22 à.
Il va mettre.
Ouais. Messieurs, c'est ça qu'on. Bon, on avait prévu d'inviter Charles Olivon d'ailleurs.
Et puis là, maintenant, je dis ça sur Jaminé, il va te sortir, il va marquer 4 essais et 28 pénalités.
Non, mais après, Toulon, on a souvent l'habitude de dire que c'est un peu le Marseille du rugby parce que la proximité. Mais on parle d'une équipe en crise qui est 5e du top 14. Oui.
C'est en crise parce que c'est quand même aussi un public de connaisseurs quand même là-bas et de passionnés, parce que la fin de championnat et le calendrier est pas rigolo du tout pour
eux. Oui, mais on est plus dans une crise en lien avec des choix d'ADN, exactement, sur Devaux qui s'en va, Carbonel qui est parti.
Et hors sportif.
Et on en oublie, et quelque part, tant mieux pour eux, c'est qu'on en oublie que le sportif fonctionne bien et ça peut ressouder les joueurs.
Parce qu'il vient de parler du calendrier de Toulon, juste pour terminer, Toulouse. Ils reçoivent Toulouse, ils se déplacent à La Rochelle, ils reçoivent Lyon et après ils vont à Oyonnax le 18 mai. Bon, ça c'est différent.
Les deux d'après nous, en tout cas eux s'ils perdent contre nous, les deux d'après peuvent les sortir du top 6 jusqu'à la fin du championnat.
Et puis ils finissent par un déplacement au Stade Français dernière journée.
Ouais, donc c'est pour ça que je dis que voilà, c'est un match très important pour eux et bien sûr qu'ils seront ultra favoris face aux petits poussés que nous sommes.
Voilà. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce match à Noëtta avec la réception de Toulon avec Stéphane Garcia. On s'est un peu arraché les cheveux. On s'arrache les cheveux depuis des semaines d'ailleurs et des mois pour avoir Charles Olivon avec nous quelques minutes ce soir. On essaye encore cette semaine de joindre la com du RCT par téléphone, par mail, par signaux de fumée, mais bon, on n'a pas eu de réponse. Ils ont peut-être cru qu'on voulait leur vendre des fenêtres ou des formations. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé avoir l'enfant du pays aussi un petit peu avec nous. Si jamais vous connaissez Charles et que vous pouvez lui envoyer un petit texto, nous on aimerait bien l'avoir, en tout cas parce que la com ne nous répond pas et ça c'est quand même fort fort dommage et on tenait à le dire ce soir.
Mais non, je rajoute parce que tu l'as très bien dit, mais que on passe par la com des clubs pour avoir des joueurs et que c'est pas Charles en direct qui n'est
pas. Non, bien sûr, c'est ce que je dis. Si jamais vous connaissez Charles et que vous pouvez lui envoyer texto, voir ce qui s'est passé ou pas. Nous, on aimerait bien en tout cas la voir et on n'arrive pas parce que la com nous a juste pas répondu. Mais pas du tout, même pas un mail, rien du tout. Et c'est quand même un petit peu dommage.
Après, c'est vrai. Oh là 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 là, ça c'est pas joué. Ouais, ben là, du coup, si vous connaissez Charles, coupez cette partie à la fin du coup. Hein.
Allez, on va passer aux infos du jour.
Hein. C'est pas beau.
100% rugby, les infos du jour.
Hey, le micro est ouvert, Stéphane, mais tu ne peux pas faire des parties d'émission, en fait.
Stéphane Garcia. Il basculait sur le Biarritz Olympique, il y a un autre journaliste.
Ah, mais qui arrive.
Exactement. Stéphane Garcia, en tout cas, merci. On se retrouvera donc dimanche soir, dès 20h30 pour
Avec Grégoire Lascoubé.
Voilà, parfait. Pour l'avant-match, à 20h30,
à quelle heure
le coup d'envoi sur France Bleu, Pays Basque. Allez, on n'a pas 3 heures, les enfants, là.
C'est toi qui
es responsable du rythme.
Qu'est-ce que tu fais sans ces jeunes blanchards, Roger Aguerre, Stéphane, sortez-moi de là.
On se retrouve chez Atari, Stéphane.
Voilà, appelle-moi Thomas, pas clair, pour le Biarritz Olympique. Monsieur Winnie Antonio, qui n'a visiblement pas du tout envie de mettre fin à sa carrière internationale, lui qui avait souhaité quitter le maillot bleu après le mondial et qui était revenu finalement à la demande de Fabien Galthié, le pilier droit rouchelet de 34 ans, se projetterait désormais vers la prochaine Coupe du Monde. C'est en tout cas ce qu'il a confié dans un entretien paru aujourd'hui dans le journal Sud-Ouest. Alors, bien sûr, il le dit, hein, ça va dépendre de tout un tas de choses, mais il se refuse pas, quelque part, de participer à la prochaine Coupe du Monde. Et alors, bon, alors c'est que pour accompagner peut-être les jeunes qui vont arriver en équipe de France, c'est peut-être pas mal, mais de là à aller jouer la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans, ça me paraît un petit peu loin, peut-être, Roger.
Bah, c'est loin, oui, mais après, il faut arrêter de se poser des questions.
Oui, en bonne forme, hein, il a fait un super tournoi. Hein.
Il a fait un très bon tournoi, et après, on verra où il en est dans 3 ans. S'il est bon, si c'est le meilleur, s'il fait partie des meilleurs, bah, qu'il fasse, peu importe l'âge.
Yann ?
Non, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis pour la forme du moment. Donc, la question, pour moi, ne se posera que dans 3 ans. Et pour le moment, elle ne se pose pas parce qu'avec Georges-Henri Colomb, il fait partie des 2 meilleurs piliers droits. Tant que tu as pas Tatafou, tant que il y en a pas d'autres qui sont en train d'éclore, et ben oui, il fait partie des 2 meilleurs. En plus, il est le meilleur.
Ça fait plaisir parce qu'en plus, c'est vrai qu'il avait dit j'arrête. Finalement, je mets un terme à ma carrière internationale. Et puis de voir qu'il se régale en fait de nouveau avec cette équipe de France et qu'il se sent encore en forme et qu'il a encore envie. Je trouve ça plutôt bien. Dans le revirement de situation, on va dire.
Ah oui, forcément, mais ça montre le personnage qu'il est, que tout le monde connaît. C'est un super mec. Et oui, pour les jeunes, forcément, tu apprends beaucoup à ses côtés. Oui, ça c'est sûr.
Selon nos confrères du journal L'Équipe, l'ailier de l'UBB, Madoche Temboué, en fin de contrat avec l'Union, pourrait rejoindre Montpellier l'an prochain. C'est vrai que, aller à Bordeaux, c'est un petit peu bouché pour le Congolais, avec Biel Biarré, il y a Penaud, il y a le jeune Maël Moustin aussi qui pousse derrière, lui qui a 20 ans.
Huberti.
Il y aura Moefana aussi qui peut jouer à l'aile et au centre. Temboué a joué que 9 matchs pour l'instant cette saison. Il a marqué 6 essais. C'est vrai que c'est un joueur très athlétique, très véloce, qui a bien dépanné pendant les doublons, mais qui parfois a des performances un petit peu en dents de scie aussi.
Ouais, il souffre surtout de son statut de non-gif. Parce que c'est quand même un bon joueur qui est quand même sur un ballon capable de faire la différence. Après, moi, le voir s'il y a Montpellier qui allait. Des problèmes aussi de gif. Oui. Donc c'est ça qui est assez étonnant, même si on connaît pas la totalité de l'effectif de Montpellier de l'année prochaine.
Je mets juste un petit bémol parce que c'est un joueur qui fait lever les foules et forcément des fois tu te déplaces pour voir ces joueurs-là. Je mets juste un bémol sur le QI rugby de ce joueur-là en défense notamment et c'est très compliqué de l'avoir sur une aile sur un match où tu subis non gif. Oui, mais si c'était le meilleur allié de l'UBB, la question ne se poserait pas qu'il soit gif ou pas gif, il serait gardé. Mais c'est vrai que quand on dit Danty, offensivement, non. Et même quand il touche pas un ballon, il peut en prendre un et faire 100 mètres tout seul. Ça, j'ai pas de souci avec ça et c'est magnifique. Mais défensivement, on voit des fois la colère de ses coéquipiers sur des phases défensives, où il a des énormes manques. Sinon, ce serait un des meilleurs alliés du monde, de toute façon.
05 59 59 17 17. Vous nous appelez pour jouer avec nous et repartir moment, là, peut-être Roger. Avec vos 2 places pour le match à Noëtta.
Ça va ?
Oui, très bien.
Le match Bayonne-Toulon. Bayonne-Toulon, 2 places, 05 59 59 17 17. Vous allez choisir votre camp, votre équipe, Roger Aguerre ou Yann Blanchard. C'est le moment de jouer avec nous, 05 59 59 17 17.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Ici dans les studios de France Bleu Pays Basque avec Michel de Briscouze. Bonjour Michel. Et Michel avait posé le téléphone, il était déjà parti à l'apéro, dis donc Michel. Comment ça va Michel?
Ça va très bien.
Ça va très bien. Michel qui va jouer avec Yann Blanchard ou Roger Aguerre, vous choisissez quelle équipe?
Quoi?
Quelle équipe choisissez-vous Michel, Roger Aguerre ou Yann Blanchard?
Yann Blanchard.
Bonjour
bon, Michel.
Attention, gros duel.
Seul contre tous.
Ouais, seul contre tous, parce que du coup, vous êtes tout seul, Michel. Puisque visiblement, tout le monde a déjà ses places pour Anoeta, pour dimanche, pour aller vivre ce match entre Bayonne et Toulon. La première question.
Sur abrubi.fr.
Voilà, la première question. Qui a dit, concernant le 15 de France, si Antoine Dupont doit redevenir capitaine, ça ne me posera aucun
Galtier.
Problème.
Aldrit,
oui. Oui,
bien Michel. Joué Michel, hein,
oui, Michel, Grégory
Aldrit, oui, c'est logique en plus, bien joué,
oui, Smith. Capitaine du 15 de France durant le tournoi Destination, et donc pour lui, ça ne lui posera aucun problème si jamais Antoine Dupont récupère son brassard. Donc, de capitaine, 1 point.
Oui, réveille Roger Aguerre.
Non, mais là, très bon.
Très bon.
Ouais.
Deuxième.
Ouais,
meilleur que toi d'ailleurs.
Ouais. Question. Un troisième ligne de La Rochelle en contre.
Tanga.
Oui, Tanga.
Allez, c'est bon.
Mais non, mais d'habitude, on doit attendre la question. Mais non, mais franchement, c'est ridicule. Allez, il a signé bon. Au Stade français.
Allez, c'est
ouais. Mais non, mais ça, c'est
bon,
ridicule.
C'est gagné, Michel.
Non, mais on peut avoir tout le temps les mêmes. Parce que moi, j'ai perdu des quiz comme ça.
Mais oui, mais
parce
là,
que j'ai
est-ce que ça a été
avant.
Spécifié
donc
ou pas?
C'est ridicule.
Ça a été spécifié ou pas?
Non, mais c'est ridicule.
Non, ça n'a pas été spécifié.
Bon, troisième question, dans tous les cas. Les places, c'est pas pour toi, Roger, de toute façon. C'est pas grave. T'es tout seul aujourd'hui.
Mais non, mais c'est ridicule. Toi, t'as gagné des trucs ridicules.
Roger, c'est pour toi cette question.
Non, mais peu importe.
C'est pour toi cette question, pour que tu marques le point. Tu n'as pas le droit de répondre, et Michel non plus.
Voilà.
Un joueur international pourrait faire son grand retour sur les terrains ce week-end après 8 mois d'absence. Il sera en tout cas du déplacement à Pau.
Entamac.
Avec son club du Stade Toulousain.
Entamac.
Il sera dans le groupe.
Et non, c'est pas à Pau, c'est à Toulouse. Donc,
à Toulouse.
Ouais, ta question elle est.
Ah oui, j'ai bien bossé mon truc. C'est nickel.
C'est-à-dire que même quand les questions sont
fausses, c'est gagné. C'est à Toulouse. Les questions. Oui, oui. Là, c'est.
Non, c'était à Toulouse parce que oui, effectivement, plus vous s'est déplacé.
C'est de mieux en mieux ces quiz.
C'est de mieux en mieux.
Deux semaines d'affilée ou les quiz quand même, c'est du haut niveau.
Dans tous les cas, c'était pour Michel les places. Grèce. Michel, vous irez voir ce match, en tout cas à Noëta. C'est ça, c'est la bonne nouvelle.
Oui.
J'ai fait un grand chèque.
De toute façon, dans tous les cas, que ce soit Pau à Toulouse, on n'ira pas voir les matchs. Donc bon, c'est pas bien grave. Michel.
Surtout pas à Pau.
Michel, bravo.
Merci.
Bien joué. Et puis, bah, rendez-vous donc dimanche soir, hein, 21h, directement à Noëta. Puis, envoyez-nous quelques photos quand même du stade et du village de rugby, du rugby qui sera installé tout autour du stade ce dimanche. Profitez bien, Michel.
Merci bien.
À très bientôt. Adio. Non, il a pas envie, Michel. Bon, écoutez, c'est l'essentiel, c'est qu'il ait pris ses places et qu'il soit content. Nous, on est ravis, en tout cas.
Il savait qu'en me choisissant, il allait gagner.
Donc, et bien sûr, ça, bien évidemment.
Avec humilité, comme dirait Patrick Millet.
Allez, vous ne bougez pas, on va retrouver Thomas Vinclair. Dans un instant, on va se pencher sur le Biarritz Olympique.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
100% rugby. Après Stéphane Garcia qui s'est invité dans le studio, bah du coup pas de jaloux, Thomas.
De la Louse.
Voilà Thomas Vinclair.
Dis-moi merci. Dis-moi merci.
Il n'est plus le roi de la Louse puisqu'il avait commenté ben quoi, 8 défaites, 7 défaites.
Un poteau près.
Et un poteau près, première fois qu'il commente
Bayonne.
Il te faire dégager du stade à l'interne.
Thomas Vinclair, en tout cas, on sera tous les deux demain soir pour suivre en tout cas ce déplacement du côté de Béziers. Là, tu seras au stade de la Méditerranée. Moi, je serai ici dans ce studio pour la 24e journée donc de Pro D2, Béziers, actuel deuxième du championnat, égalité de points avec Vannes. D'ailleurs, les trois premiers du classement se tiennent dans un mouchoir de poche, hein, puisque la dernière marche du podium est occupée par Provence Rugby en embuscade. Un point derrière le duo du tête. La composition du BO est tombée. Thomas, justement, tu vas nous la donner ?
Ah bah vas-y, je pensais que tu allais la faire, pardon.
Bah du coup, t'es là, j'en profite. Hein.
Ouais, première ligne, donc on aura Al-Fakir avec Lutero Tolaï, Mohamed Awas. La deuxième ligne pour le match contre Béziers, donc ce sera Charles Matthews avec Adrien Motoc. Troisième ligne.
Ouais, fais ça de tête.
Je l'ai là si tu veux. Tu veux non, les notes,
Simon,
je les ai là.
Simon Ogri, Dave O'Callaghan, capitaine en numéro 8, vu que Temo Matthews est blessé, ce sera Tourniquet Jalogonia. La charnière, ce sera Pierre Pagès, associé avec Billy Searle. On aura Ian Perrault, premier centre. Deuxième centre, ce sera Vincent Martin sur les ailes.
Ah, c'est pas Baptiste Farisco du coup ?
Ah non, sur les ailes, Baptiste Farisco et de l'autre côté, Gervais Cordin et enfin à l'arrière, Joe Jonas,
effectivement.
Tout ça de tête, c'est magnifique.
Tout ça de tête. Il est fantastique, Thomas Vinclair. Composition, petit commentaire sur la composition, Yann ?
Non, c'est du lourd. Alors oui, c'est à Béziers face à un favori de cette Pro D2, mais bon, tu ressors de deux semaines sans jouer, donc l'objectif est sans doute d'aller chercher des points, peut-être pas la victoire, mais des points. Mais t'es obligé de toute façon de redonner du rythme à ton équipe cadre pour les réceptions suivantes. Donc c'est plutôt logique de voir ça avec les petites blessures comme Temo Matthews. Mais bon, quand en Pro D2, tu as Temo Matthews blessé et que t'arrives à avoir Tourniquet Jalogonia en 8, enfin voilà.
Je pense que beaucoup de clubs
aimeraient avoir cet effectif-là. Donc une superbe équipe de Biarritz. Voilà. Après, est-ce qu'ils sont capables d'aller le faire du côté de Béziers ? Justement, match de reprise pour tout le monde aussi 15 jours. Oui, donc
15 Béziers, jours, ouais.
Béziers, ça peut compter aussi ça. Tu peux mettre du temps à te mettre dans le match, à enchaîner comme ils ont réussi à enchaîner depuis de longs mois. Et du coup, à Biarritz d'en profiter et essayer d'aller planter quelques banderilles.
Surtout que Béziers a très mal fini son bloc en prenant 60 points à Dax. Donc même s'ils ont joué 50 minutes à 14, hein, suite à un carton rouge reçu par leur troisième ligne. Mais c'est vrai que c'est là où c'est toujours j'ai l'impression qu'on le dit tous les jeudis à chaque fois qu'on commente une équipe du BO, mais c'est l'incompréhension quand on voit la qualité de cette équipe par rapport au classement, même si on voit bien que sur les deux derniers matchs il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans cette équipe et qu'on a vu un collectif qui s'est vraiment mobilisé et je trouve que la différence en plus c'est que là il y a un banc en plus de qualité,
Jonathan Joseph
qui revient, donc pourquoi pas ? Et effectivement, le BO est toujours dans une logique de maintien, même si c'est replacé au-dessus de la ligne du barrage. Mais tous les points vont compter et il faut que le BO aille jouer pour aller faire une perf.
Parce que tu l'as dit, donc Joseph revient après deux mois de blessure. Dernier match c'était Angoulême. Est-ce que du coup tu nous as fait la composition de tête ? Est-ce que de tête tu as aussi la composition du banc ?
Ouais, alors là, non, pas, je l'ai pas forcément de tête.
Non, mais t'as Bastien, en fait.
T'as Bastien Souris qui est sur le banc. T'as Kylian Taoufifenoua qui est donc replacé, on s'en souvient, en pilier gauche. Pilier droit sur le banc, t'as Alfie Petch. T'as ensuite Charlie Francoz, lui aussi, qui fait son retour. T'as Steve Barry qui était placé sur le banc. Emmanuel Biscay, qui est donc sur le banc. En deuxième ligne, ensuite, du côté du BO. Il me semble que t'as le jeune Eli Mahafou, l'américain aussi, qui a été
été placé sur le banc. Il me semble que du coup on a fait le tour de la question avec Charlie Francoz et
c'est pas mal.
Etc. Non, c'est une vraie équipe du BO qui va essayer d'aller chercher une première victoire, une première victoire à l'extérieur. Ça fait quand même depuis le match à Rouen, c'était en septembre dernier, qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Et puis t'en parlais aussi cette défaite à Dax. Il y avait aussi une autre défaite contre Vannes pour les Biterrois, où ils avaient pris 50 points aussi du côté de Vannes. Donc faut espérer qu'ils ont encore un peu la tête au fond du seau, surtout quand tu regardes le calendrier de Béziers. C'est très intéressant pour eux parce qu'ils reçoivent après Rouen, ils font un déplacement à Valence-Romans. C'est un retour très tranquille. Faudrait peut-être les surprendre, comme tu disais Yann, avec deux semaines de repos. Après moi, l'interrogation que j'ai, c'est ce duo, on va dire, entre le demi d'ouverture et Eliane Perrault, entre Billy Searle et Eliane Perrault, qui sont plus ou moins associés, ces deux.
Moi,
c'est assez intéressant de voir comment ils vont, l'animation offensive, en tout cas, va être très intéressante, voir comment ils vont s'entendre, comment ils vont jouer. C'est la première fois qu'ils sont associés, si on peut dire. Oui. Ensemble, je pense que ça va être très intéressant.
Après, on sait que Perrault a cette polyvalence, et dans un match à l'extérieur, d'avoir deux pieds au milieu du terrain, avec ce rôle de deuxième 10, sachant que tu as aussi Joe Jonas qui a du pied sur le fond du terrain. Moi, je trouve que c'est une association intéressante. Et puis voilà, Yann Perrault, il déçoit jamais, il est toujours présent. C'est un joueur qui est propre techniquement, qui est propre en défense. Et dans un match à l'extérieur, moi, je trouve que cette association est intéressante à voir.
Et puis après, tu attends la 30 de Jonathan Joseph vers la 60e minute de jeu, ce qui peut faire une grosse différence. Non, franchement, ils étaient plutôt confiants. En tout cas, les Biarros, ça fait très longtemps qu'on les avait pas vus aussi confiants. Non, mais ils le disent, hein, collectivement, ils se sont retrouvés. Et ils en parlent maintenant très ouvertement du contexte général, hein, parce qu'il faut rappeler aussi que le Biarritz Olympique est dans un contexte très particulier, avec donc un club qui est en vente, des investisseurs qui sont en attente et des joueurs qui sont sous contrat jusqu'à la fin de la saison, qui savent pas encore s'ils vont être prolongés, s'ils vont devoir partir, etc. Donc c'est un contexte assez particulier autour, mais en fait eux ils le disent clairement que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ils ont fait bloc et ils ont trouvé le collectif en fait dans ce qui se passait à l'extérieur, autour du club en tout cas. Et c'est assez surprenant de voir cette cohésion qu'ils ont trouvé. Donc depuis le début de la saison, quand tout se passait bien, entre guillemets, encore une, ça reste le Biarritz Olympique, il y a toujours des petites tensions ici ou là, mais quand tout se passait bien, ils n'arrivaient pas à se trouver collectivement. Et là aujourd'hui, quand tu te retrouves vraiment la tête au fond du seau, ils ont réussi à trouver ce collectif. Faudra voir comment ça continue. Après les deux victoires, c'était deux victoires à domicile contre Vannes qui avait fait beaucoup tourner, contre Montauban qui eux pour le coup sont vraiment la tête au fond du seau et qui sont 15e maintenant, premier barragiste. Donc faut peut-être aussi un peu relativiser ces deux victoires, même si ça fait toujours du bien. Et le BO aujourd'hui est 12e à 3 points de cette 15e place.
Et puis on va parler un petit peu de Béziers. C'est vrai que place forte du rugby français dans les années 60, 70, 80, c'est 11 titres de champion de France quand même pour Béziers entre 61 et 84. C'est le troisième club de France en nombre de titres de championnat, derrière Toulouse qui en comptabilise 22, le Stade français qui en a 14 à son actif. C'est vrai que depuis 2004-2005 et sa relégation en Pro D2, Béziers vivotait un petit peu dans cette deuxième division. Et là, on commence à croire, hein, j'ai regardé un petit peu hein, sur les réseaux, etc. Du côté de Béziers, on croit un petit peu à un retour peut-être des Biterrois en top 14. En tout cas, ils en rêvent. Et les joueurs ne pensaient pas, hein, clairement, eux, au début du championnat, être deuxième là, mais l'appétit vient en mangeant. Et c'est une équipe pleine d'euphorie aussi, quelque part, là, chez qui on va.
Et oui, Père Castor.
Il y a juste un joueur, moi, c'est Sam Marquez. Ah ouais. Samuel Marquez, qui pour moi fait pas tout, mais presque. En tout cas, si on se souvient sur le match aller, il avait été insupportable, mais dans le bon sens du terme. Il avait vraiment fait vriller les Biarros avec en râlant tout le temps, etc. Ouais. Et aussi, il avait été très malin sur une sortie de balle de Mathieu derrière une mêlée à 5 mètres où il avait réussi à marquer un essai de filou. Et on le voit dans le jeu de des Biterrois, il amène tout le temps, enfin, son petit grain de folie, il est un peu foufou, mais en tout cas, ça les tire vers le haut. Après, ils ont des ailiers extraordinaires.
Exactement, il y a Kostas Torti qui est extraordinaire.
17 essais en 12 matchs, enfin, c'est incroyable.
Donc, qui avait fait la Coupe du Monde avec le Portugal. Donc, donc oui, moi je trouve que c'est une très belle équipe. En plus, qui effectivement s'est loupée à Dax, mais moi je trouve qu'elle joue très bien. Et effectivement, dans le sillage de Marquez qui fait une saison vraiment incroyable.
T'es pas convaincu, Yann?
Si, totalement.
Mais c'est difficile de savoir qui va monter, parce que tu disais, c'est un candidat clairement pour remonter en top 14. Alors, cette Pro D2,
il disait pas du tout ça au début.
Ouais, mais c'est très faible. Franchement, je pense qu'on a une des Pro D2 dans les top 3, top 4, qui sont l'une des plus faibles qu'on a eues depuis un petit moment, quand même.
Faut leur sauter s'ils mentent de retrouver leur logo, puisqu'il leur appartient plus.
Oui, c'est vrai. Et un investisseur, parce que c'est quand même un club qui a la particularité
d'être géré par
la mairie, qui le maintient en attendant de trouver un investisseur.
Je me rappelle de mon dernier déplacement là-bas.
T'avais pas ta carte.
Je me suis fait virer du stade. Par le président. Monsieur le maire. Ouais, mais Béziers. Vous savez, j'ai parlé de Serein tout à l'heure, qui est capable de changer le visage d'une équipe, et là c'est exacerbé avec Sam Marquez, parce que le peu de fois où ils ont essayé de le mettre un peu au repos, au moins sur le banc, ben en fait il rentrait à la mi-temps parce que le visage de l'équipe changeait totalement et il arrivait à faire des matchs, à faire gagner des matchs à lui tout seul. Vous savez, c'est le genre de, quand Thomas disait pénible dans le bon sens, c'est le genre de joueur que tu détestes quand tu es l'équipe adverse, et c'est ton idole quand il joue dans ton équipe. C'était le cas à Pau, c'était le cas à Carcas, c'est le cas maintenant du côté de Béziers, et c'est des mecs qui lâchent rien, qui sont des meneurs d'hommes, mais aussi des meneurs par l'exemple, parce que sur un terrain ça lâche rien du tout, et je trouve que sa carrière est un poil sous-côté. Je pense qu'il aurait mérité mieux, parce qu'il sait quand même tout faire, ce joueur-là.
Et puis surtout, il est impressionnant dans sa maîtrise en tant que neuf du rythme d'un match.
Oui,
c'est-à-dire qu'il sait quand est-ce qu'il va falloir ralentir, il sait quel est le bon moment pour jouer une pénalité à la main. Tout dépend, peu importe la zone, si c'est à 80 mètres de sa ligne, à 30 mètres, il a la capacité à faire jouer son équipe au rythme qu'il faut et au moment où il faut. Et c'est vrai qu'il est très fort par rapport à ça.
Mais il a acquis cette maturité assez tard. Et c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être une carrière un peu sous-côté. Parce que là, je trouve qu'il est, même à Carcas, parce que l'année où Carcas fait une très bonne saison, il y est pour beaucoup, je trouve qu'il a son apogée depuis 3 ans.
Moi, on ne se souvenait pas en top 14, en tout cas, d'un gars qui était un poison comme ça. Enfin, moi, l'image que j'avais de Sam Marquez. Oui, non, mais pas aussi exacerbé que tu l'as aujourd'hui, franchement. Enfin, moi, je n'ai pas ce souvenir quand il jouait à Pau et au stade.
Ah, lui, il était bien pénible.
Je te parle des années en top 14.
C'était beaucoup trop jeune,
on le voyait pas, mais c'était peut-être le moins pénible de tous les pénibles.
Mais moi, en tout cas, je n'ai pas ce souvenir-là, tu es en top 14 d'un joueur qui était un poison comme ça, et qui, mais encore une fois dans le bon sens du terme, et qui te faisait gagner des matchs à lui tout seul, en faisant vriller tout le monde et en faisant vriller un match à lui tout seul, quoi.
Et même si on le voit moins ou on en parle moins, il y a le joueur qui va former la charnière avec lui demain, qui, c'est un peu le même style, c'est Charles Malier, qui a aussi une excellente carrière et qui est un très bon joueur, mais voilà, dont on parle peu, mais c'est d'excellents joueurs de club et de pro D2.
Roger Aguet, on se dit à jeudi prochain.
À jeudi prochain.
Bonne soirée, merci Thomas, on se dit à demain. 19h pour l'avant-match, 19h30 pour le coup d'envoi au stade de la Méditerranée à Béziers, pour ce déplacement donc du BO. Pierre Blanchard, dimanche soir.
À Noëta,
effectivement, pour le déplacement.
Sur France Bleu, Yann. Moi, j'avais ma semaine.
Et à la semaine prochaine.